Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je continue la série de sermons pour mettre en garde, pas seulement les traditionalistes, mais aussi tous les chrétiens, et même tous nos contemporains aujourd'hui, par rapport aux vices dans lesquels le monde moderne veut les faire tomber. En relisant saint Thomas d'Aquin, évidemment je commence par la foi parce qu'il faut toujours commencer par le commencement, je ne vais certainement pas commencer par la dénonciation des mauvaises modes, quoiqu'elles soient scandaleuses, bien sûr, mais comment voulez-vous dénoncer les mauvaises modes si on n'a pas d'abord donné le goût des choses de Dieu? Je vous ai donc dit la dernière fois que la foi devait rayonner. Et quand on continue avec saint Thomas d'Aquin l'étude de la foi, il est très remarquable de constater que dans son traité de la foi, saint Thomas d'Aquin dénonce les 6 péchés contre le Saint-Esprit. Et là, mes bien chers frères, on tombe de haut. On constate que, sauf le péché de désespoir que notre monde a rejeté, pourquoi désespérer puisque tout le monde est sauvé, sauf le péché de désespoir, les 5 autres péchés contre le Saint-Esprit, aussi bien ceux qui ont suivi Vatican II, ceux qui n'ont pas suivi Vatican II, les traditionalistes, et les ennemis de Dieu aujourd'hui, les péchés qui les atteignent le plus, ce sont les péchés contre le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, tout le monde ne tombe pas dans ses péchés parce que Dieu préserve des âmes fidèles, aussi bien d'ailleurs dans le monde, pour les mener à la conversion, chez ceux qui ont suivi Vatican II, qui sont préservés d'une certaine ignorance et de vice, ils ne sont pas très nombreux, et évidemment ce n'est pas facile, mais le bon Dieu travaille, de même que chez les Hébreux autrefois, il avait préservé des Hébreux fidèles qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, bien que leur chef et leur nation dans l'ensemble ne l'aient pas suivi. Et de même chez les traditionalistes, heureusement, et pas seulement dans la fidélité catholique. Il y aura à ce sermon 4 parties, ça fait un peu beaucoup, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire moins. Tout d'abord, définition et explication des péchés contre le Saint-Esprit. Deuxièmement, comment on tombe dans de telles extrémités. Troisièmement, les péchés contre le Saint-Esprit sont irrémissibles, c'est-à-dire ne seront pardonnés ni dans ce monde ni dans l'autre. On verra de quelle manière entendre cette affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, quatrièmement, l'application aux chrétiens d'aujourd'hui. Et là, vous verrez que nous tombons tous de haut. Premièrement, définition, explication. Un péché contre le Saint-Esprit, c'est rejeter avec mépris ce qui pourrait ramener vers Dieu, ou bien mépriser les bons effets du Saint-Esprit dans l'âme, de façon à mieux pécher. La définition la plus simple, c'est rejeter avec mépris ce qui pourrait ramener vers Dieu, c'est-à-dire éviter le péché ou en sortir. Vous remarquerez que mépris ne veut pas dire opposition déterminée, caractérisée. Mépriser, c'est simplement ne pas donner à une chose le prix qui lui revient, qui est le sien. Et nous allons voir que ce mépris peut se faire sans y penser. C'est même assez fréquent. La liste des péchés, des 6 péchés contre le Saint-Esprit, elle varie un peu parce que les pères de l'Église ont donné différentes interprétations aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est le grand mérite de saint Thomas d'Aquin d'arriver avec ses distinctions, sa précision, qui font que le sens des paroles de notre Seigneur devient très clair, et que par conséquent la liste des 6 péchés est facile à établir. Il y a tout d'abord 2 péchés par rapport au jugement de Dieu, parce que le souvenir du jugement de Dieu nous écarte du péché, nous empêche de tomber dedans et nous en sort. dans le jugement de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, et le péché contre le Saint-Esprit, c'est le désespoir. Il y a la justice de Dieu, et le péché contre le Saint-Esprit, c'est la présomption de se sauver sans mérite. Ensuite, il y a le mépris des dons de Dieu. Deux dons de Dieu, tout d'abord la vérité, deuxièmement le secours de la grâce. Par rapport à la vérité, s'y oppose celui qui, pour se donner plus de licence, c'est-à-dire de possibilité de péché, combat la vérité qu'il a pourtant bien vue dans la foi. Et à propos de la vérité connue, saint Augustin dit qu'on s'oppose à la vérité connue par la foi, mais également en étant méchant envers ses frères par qui est révélée la vérité. Méchant envers ceux qui rappellent la vérité. Ou bien encore en étant ingrat envers Dieu par l'inspiration de qui l'Église est instruite, c'est-à-dire le mépris de l'Église, donc nous verrons ça, le mépris de la tradition. Et par rapport au secours de la grâce intérieure, c'est ce à quoi s'oppose l'envie des grâces accordées à nos frères, ce qui a lieu quand un individu non seulement porte envie à la personne de son frère, est jalouse de ses grâces, mais aussi, dit saint Thomas d'Aquin, quand quelqu'un se montre envieux de l'accroissement de la grâce de Dieu dans le monde. Enfin, les deux derniers péchés contre le Saint-Esprit. Eh oui, mes bien chers frères, on n'est pas habitué à les apprendre par cœur. Et donc, vous, déjà, dès maintenant, vous vous dites, oh là là là, je ne pourrais pas retenir les six péchés, et là, et il faut apprendre le catéchisme de Saint-Pie-X, hein, c'est dedans. Donc, les deux derniers péchés contre le Saint-Esprit, c'est par rapport au péché lui-même. Et deux choses écartent l'homme du péché. Tout d'abord, le désordre et la laideur de l'acte qui pousse à la pénitence quand on voit qu'on a mal fait. Et à cela s'oppose l'impénitence, non pas l'impénitence finale, comme disent certains, mais le fait de refuser la pénitence de manière à être sûr de pouvoir continuer tranquillement dans le péché. Et enfin, le sixième péché contre le Saint-Esprit, c'est par rapport à la brièveté et la médiocrité du bien qu'on cherche dans le péché. Saint Paul nous dit « Quel fruit avez-vous recueilli de ces péchés dont aujourd'hui vous rougissez ?» Et cela, évidemment, nous fait comprendre qu'il faut quitter le péché. Eh bien, l'obstination s'oppose à cela. Comment on tombe dans de telles extrémités? On pourrait croire que de telles extrémités sont le fait uniquement d'hommes pervers. Saint Thomas d'Aquin dit que oui, cela peut arriver, que quelqu'un, par une perversité rare, des passions très violentes, ou bien un très faible attachement à Dieu, décide fortement, presque brutalement, de s'opposer au Saint-Esprit pour être sûr de pouvoir continuer dans le péché. Mais, dit-il, ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est de tomber progressivement dans le péché contre le Saint-Esprit. Enfin, je dis « le », mais ce sont les six péchés. Selon ce que dit les proverbes, l'impie, lorsqu'il descend dans la profondeur des péchés, en arrive au mépris. En effet, il explique que rares sont ceux qui arrivent directement à la perfection, que ce soit dans le bien ou dans le mal d'ailleurs, il y a des étapes pour la perfection, il y a des étapes d'apprentissage, et pour le mal, il y a des étapes de chute. Et il fait remarquer cette chose terrible, il va citer Origène, c'est pourquoi chez les hommes parfaits, alors les hommes parfaits, ce sont ceux qui sont établis dans la grâce, ce qu'on appelle les bons, vous voyez, les bons chrétiens. Il ne peut guère, ou presque jamais, arriver qu'il pêche dès le début contre le Saint-Esprit. Et Origène dit « Je ne pense pas qu'un de ceux qui se sont établis au plus haut degré de la perfection puisse subitement se perdre ni tomber. Par conséquent, s'il tombe, c'est nécessairement de façon progressive. » Et ça, c'est très important, parce que nous constatons qu'aujourd'hui, ceux qui tombent, je ne parle pas des francs-maçons, et encore même eux. Ceux qui tombent dans les péchés contre le Saint-Esprit tombent de façon progressive. Et voilà pourquoi, si peu, s'en aperçoivent. Voilà pourquoi j'insistais sur la question du mépris au début. Ce n'est pas une perversité fondamentale initiale, c'est qu'on accorde tellement de prix à d'autres choses, au plaisir, au monde, qu'on finit par ne plus accorder de prix aux choses de Dieu et ne plus accorder de prix au jugement, à l'aide de Dieu et au péché lui-même. Un prix négatif, bien entendu. S'il tombe, c'est nécessairement de façon progressive. Et là, il va certainement y avoir un examen de conscience à faire. Les péchés contre le Saint-Esprit sont irrémissibles, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ça mérite une explication parce que nous savons tous qu'il y a des conversions spectaculaires. Par exemple, la première conversion due à la médaille miraculeuse est un franc-maçon qui refusait absolument de recevoir le prêtre. On a également la conversion du capitaine Pigère, qui a tué de sang-froid l'archevêque de Paris sur les barricades en 48, je crois, ou 70, je ne me rappelle plus. On a de multiples conversions avec le scapulaire vert. Il est flagrant qu'aujourd'hui, justement pour faire éclater sa gloire d'une part, et puis par miséricorde pour les pauvres pécheurs, le bon Dieu multiplie les conversions extraordinaires, justement pour désaveugler ceux qui sont complètement aveuglés, pour sortir de leur obstination ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit. Saint Thomas donc explique, bien sûr, le péché contre le Saint-Esprit est irrémissible, non pas en ce sens qu'il ne puisse plus être remis d'aucune façon, mais parce que de soi, il mérite de ne pas être remis. Vous avez des maladies qui sont dites incurables parce qu'elles ont détruit les possibilités de la guérison. Par exemple, les maladies qui dégoûtent de la nourriture. Surtout à l'époque de saint Thomas d'Aquin, où la nourriture adaptée était le principal remède. Celui qui ne se nourrit plus, qui ne peut plus se nourrir, la maladie est incurable. Il en irait de même de quelqu'un qui est tombé au fond d'un trou et s'est cassé les jambes, il ne peut plus remonter. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas le remonter de l'extérieur, mais à ce moment-là, saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est un miracle. Dieu peut guérir quelqu'un qui a perdu tout appétit. Dieu peut sortir du trou quelqu'un qui s'est cassé les jambes, comme il a sorti d'un puits un saint qui était tombé. Mais c'est miraculeux. Et bien de même, le péché contre l'esprit est dit irrémissible parce que il exclut ce qui produit la rémission du péché. C'est le but du pécheur. De manière à mieux pécher, il exclut tout remède. Cependant, dit saint Thomas, cela ne ferme pas la voie du pardon et de la guérison par la toute-puissance et la miséricorde de Dieu. Et il arrive que, grâce à cette toute-puissance et à la miséricorde de Dieu, de tels pécheurs soient spirituellement guéris comme par miracle. Et maintenant, j'en arrive à notre examen de conscience, mes bien chers frères. Je ne veux accuser personne. Il ne me revient absolument pas de condamner qui que ce soit, ni d'accuser qui que ce soit. Je viens pour proposer le remède. Seulement, quand on a affaire à des gens qui sont tombés dans les péchés contre le Saint-Esprit, pour qu'ils acceptent le remède, il faut qu'ils prennent conscience de ce péché et qu'ils se tournent vers Dieu. Je diviserai en trois. Ceux qui ont suivi le Concile Vatican II, ceux qui n'ont pas suivi le Concile Vatican II, les traditionalistes, et enfin les incroyants, les ennemis de l'Église. Ceux qui ont suivi le Concile Vatican II, alors il y a dans les trois catégories un péché qui me semble ne pas être fréquent, c'est le désespoir. Aujourd'hui, ça n'est pas de la mode de désespérer. Il y a la présomption de se sauver sans mérite. C'est l'œcuménisme, c'est l'affirmation que Dieu aime tous les hommes tels qu'ils sont, C'est l'affirmation de Jean-Paul II. Par l'incarnation, Dieu s'est uni à toute l'humanité. Alors si s'est uni à toute l'humanité est sauvée. Alors que nous, nous disons que par l'incarnation, Jésus-Christ vient chercher toute l'humanité, mais que toute l'humanité n'en profite pas. Voilà pourquoi la croix a été offerte pour le monde entier, mais le sacrifice de la messe n'est pas offert pour tout le monde, ni pour la multitude, mais simplement pour beaucoup. C'est également l'enseignement Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse de Vatican II, la dignité de la personne humaine. Tout homme, même pécheur, est digne parce qu'il est une personne. Ça, c'est faux. Il est apte à être digne, mais il n'est pas digne. Pas tous. Il y a le refus de la vérité connue. Dieu sait si ceux qui ont suivi le Concile Vatican II connaissaient la vérité, puisqu'elle était enseignée partout, clairement, dans l'Église. Ce refus de la vérité, c'est l'œcuménisme, qui prétend que toutes les religions, comme ils disent, alors qu'il n'y en a qu'une de vraie, détiennent la vérité, ou au moins une part de vérité. Le relativisme des modernistes, la vérité n'existe pas, ou bien elle est évolutive. L'herméneutique de la continuité de Benoît XVI, un mot très savant pour cacher la réalité. Benoît XVI, je viens de relire cela, dit que vérité et temps se compénètrent, le temps qui passe, c'est-à-dire que la vérité change au fil du temps, et c'est comme ça qu'elle demeure fidèle à elle-même. La méchanceté envers leurs frères par qui est révélée la vérité, méchanceté envers Mgr Lefebvre, envers les traditionalistes, ou bien l'ingratitude envers Dieu par l'inspiration de qui l'Église est instruite, ça c'est le refus de la tradition. Ils refusent la tradition catégoriquement, comme ça ils sont sûrs de ne pas être rappelés à l'ordre par l'Église. L'envie, le refus de christianiser, le refus d'évangéliser, la laïcisation des États, le refus de la pénitence, la suppression du jeûne qui a été réduit de 52 ou 53 jours par an à 2, la suppression du maigre qui a été réduit de 70 jours par an à 0, la transformation de l'extrême-onction en sacrement des malades, comme ça évidemment on est sûr de ne pas faire pénitence, les absolutions collectives, etc. Et puis l'obstination. On voit bien l'obstination, par exemple à combattre ceux qui veulent ramener l'ordre dans l'Église, le refus d'écouter les avertissements de la Très Sainte Vierge à Fatima, par exemple le troisième secret, le refus de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, etc. Chez les traditionalistes maintenant, la présomption de se sauver sans mérite, comme s'il suffisait de défendre la foi pour être bon chrétien. Sous prétexte de foi, on méprise pratiquement toutes les autres vertus, non pas la vertu de religion qui consiste à aller à la messe, mais, encore une fois, mes bien chers frères, heureusement, grâce à Dieu, il y en a partout qui échappent à cela. Mais il faut reconnaître que la présomption est le fait des chrétiens libéraux, les catholiques libéraux, qui veulent à la fois être en paix avec leur conscience, en paix avec Dieu, et en même temps en paix avec le monde, et qui sont obligés, alors non seulement à la présomption, mais au refus de la vérité connue. Parce que ils connaissent la vérité, et elle les écarte du monde, et elle les ramène vers la tradition. Comment être unis à la fois au monde et à la tradition? Le seul moyen, c'est de refuser de voir la vérité. La méchanceté envers leurs frères, par qui il leur est révélé la vérité, Mgr Lefebvre, la fidélité catholique. C'est un critère pour savoir qui est et qui n'est pas tombé dans les péchés contre le Saint-Esprit. Et ceux qui sont tombés dans ces péchés, hélas, voient tous les défauts de ceux qui sont fidèles et toutes les qualités de ceux qui sont infidèles. Eh oui, ça c'est facile. L'envie, la tiédeur dans le rayonnement de la foi, eux aussi, moins que les autres, mais quand même. Le refus de la pénitence, le jeûne a quasiment disparu, le maigre, le jeûne eucharistique, l'envahissement des plaisirs du monde, internet, vidéo, télévision, tenues indécentes, impudeur entre garçons et filles, qui sont justifiées. Il suffit de voir le pèlerinage de Chartres sous les yeux d'une cinquantaine de prêtres minimum, d'un évêque, du supérieur général. Tout cela est justifié par le prétexte qu'il faut vivre avec son époque, et ça, c'est de l'obstination. Vivre avec son époque, c'est pratique. On s'obstine à rester dans le péché contre le Saint-Esprit. Enfin, pour les incroyants et les ennemis de l'Église, ce n'est pas difficile, hélas. La présomption crève les yeux, le refus de la vérité crève les yeux. Pourtant, Dieu sait s'ils la connaissent malgré tout. L'Église a quand même prêché partout, partout. L'envie, le refus de la pénitence, la poursuite déterminée des plaisirs, l'obstination à justifier leur refus de Dieu, ça crève les yeux, hélas. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que nous savons très bien que les incroyants sont les ennemis de Dieu et de l'Église, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose de démoniaque dans le monde moderne, c'est qu'il y a une détermination quasi universelle de s'enfoncer dans le péché et pour cela de détruire tout ce qui pourrait sortir du péché, un refus de ce qui pourrait sortir du péché. Enfin, les remèdes. Je vous avais annoncé 4 parties, mais il y en a 5. La cinquième est assez brève. Les remèdes, le rosaire, le rosaire, le rosaire et le rosaire. Le rosaire montre la vérité de la vie et de la foi, les mystères joyeux. Il enseigne la pénitence, les mystères joyeux et douloureux. Il rappelle la miséricorde et la justice. Tous les mystères appellent ça joyeux, douloureux, glorieux. Il fait honte pour le péché. La très sainte Vierge à Fatima, prière et pénitence pour la conversion des pécheurs. Quiconque fait cela, nécessairement, même s'il est tombé dans le péché contre le Saint-Esprit, en sort. Vous avez la prière que j'espère vous connaissez par cœur. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Voilà, mes bien chers frères, encore une fois, je croyais que ce sermon serait bref, et puis la matière est importante. Veuillez me pardonner, mais je pense quand même que cela vous aura intéressé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.